Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR présentée aujourd'hui par Jean-Noël Cimetière et Noé Moutier.
Le gouvernement français veut aujourd'hui réformer le Code du travail. Monsieur Hamp, vous qui êtes un spécialiste de l'histoire locale du début du XXe siècle, vous avez étudié comment en 1900, un jeune procédait pour chercher un travail et un employeur pour trouver un apprenti.
Évidemment, rechercher un emploi ou former un apprenti ne date pas d'aujourd'hui. Cela posait problème.
Il n'y avait pourtant pas d'agence pour l'emploi ou, comme on dirait maintenant, de Pôle emploi.
Non, mais il existait quand même une structure un peu équivalente. On appelait cela un bureau de placement. En effet, depuis la loi de 1904, la création de bureaux de placement devient obligatoire dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Ces bureaux étaient gérés par les représentants des patrons, les représentants du personnel et puis les représentants libres. Pour ces derniers, il suffisait alors de déposer une simple déclaration. Et puis il y avait également les représentants qu'on appelait représentants spéciaux défendant les domestiques.
Mmh. Et dites-moi, comment fonctionnaient-ils ces bureaux de placement ?
Oh, pas très bien, hein, car ces bureaux avaient des moyens rudimentaires, notamment du personnel en insuffisance. Malgré tout, ils mettaient tous leurs efforts pour accomplir au mieux leur mission de placement. Et déjà à l'époque, les difficultés financières existent aussi bien pour l'État, les communes que les particuliers. Par ailleurs, pour les lois régissant l'apprentissage, elles ne sont plus appliquées. Les sanctions qu'elles comportent sont illusoires. Et ce qui comptait pour les jeunes, c'était de vivre.
Vous pouvez préciser votre pensée ? Est-ce que, si je puis dire, il fallait absolument travailler à n'importe quel prix pour survivre ?
Eh oui, pour vivre en 1900, un adolescent qui sort de l'école à 13 ou 14 ans et qui se rend au bureau de placement, soit seul, soit accompagné, recherchera une situation capable de lui apporter tout de suite le plus d'argent possible. Sans s'occuper de l'avenir, sans se demander à quoi cela le conduira plus tard, notre jeune accepte n'importe quoi. Pourvu que la rémunération qu'on lui offre lui apporte immédiatement des possibilités de mener une vie plus aisée. Pour l'avenir, il verra plus tard.
Et est-ce que ces fameux bureaux de placement cherchaient à recruter des jeunes plus qualifiés qui seraient peut-être mieux payés ?
En réalité, dans ces bureaux de placement, on ne voit que de la main-d'œuvre non spécialisée. Souvent, les jeunes reviennent du régiment sans un métier et continuent de traîner des voitures à bras et d'errer de place en place à la recherche d'une condition meilleure. Et pendant ce temps, les patrons se lamentent, clamant qu'ils ne trouvent plus d'apprentis, recherchant plus de bons ouvriers, connaissant et aimant leur métier.
Mais ces patrons, ils avaient bien des astuces pour trouver du personnel qualifié.
Mais oui, certains créaient dans leur usine leur propre école d'apprentissage et payaient des jeunes désireux d'apprendre un métier. Mais l'astuce, c'est qu'ils les payaient insuffisamment, mais leur faisaient miroiter l'espoir de gains plus élevés par la suite, une fois formés.
Mais dites-moi, si ces bureaux de placement étaient concurrencés par les milieux patronaux, c'est qu'il devait y avoir quand même un manque d'efficacité dans la préparation de leurs jeunes à la vie professionnelle.
Je sais, ils auraient pu faire ressortir à ces jeunes gens l'utilité d'accepter une rémunération plus faible, comme manœuvre, coursier, livreur, en attente d'avoir un bon métier capable de les faire vivre largement et de leur donner l'orgueil de l'œuvre accomplie. Or, ils ne le faisaient pas. Car en 1900, dans notre région, si je ne me trompe pas, comme partout en France, c'était le grand développement du machinisme et des manufactures, notamment dans le secteur du textile. Chez nous, manœuvrer un métier à tisser peut s'apprendre sur le tas, et j'ose dire au fil du temps. Par contre, les postes comme gareur nécessitaient une bonne formation. Autre exemple, le secteur d'activité des métiers d'art où le travail se fait exclusivement à la main. Ferronnier, ciseleur, sculpteur sur bois, ajusteur de précision, maroquinier de luxe, décorateur sur porcelaine. L'apprentissage d'une durée parfois longue reste indispensable, puisqu'on n'imagine pas ces travaux d'art exécutés à la machine et par série.
Oui, c'est sûr. Mais est-ce que ces bureaux de placement cherchaient à découvrir, comme on le fait aujourd'hui, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de leurs candidats ?
Ah non, pas à l'époque. C'était plutôt du domaine du compagnonnage. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir une autre fois. Pour en revenir au bureau de placement, pour obtenir un tel résultat, il aurait fallu prendre ces jeunes gens à part dans un bureau, les interroger, leur donner la certitude qu'on recherche leur bien, leur mieux-être, les amener à confier de manière à leur donner les directives qui leur manquaient, à les orienter plus sûrement. comme on devrait faire aujourd'hui à Pôle emploi.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Jean-Noël Cimetière et Noé Moutier.